Il est 22h, vous êtes sur Europe 1.
L'essentiel, c'est de repérer les personnes qui ont une quantité importante de virus dans la salive, puisque ce sont elles qui sont l'origine de contamination.
Le test salivaire est-il la solution pour désengorger les labos? Nous irons au CHU de Montpellier où les médecins sont catégoriques. Ces tests sont rapides, pratiques et surtout, ils sont fiables. Une petite révolution pour les futurs papas. Le congé paternité va doubler et passer à 28 jours. Une partie pourrait même devenir obligatoire. Les apiculteurs l'appellent le tueur d'abeilles, les néonicotinoïdes, insecticides interdits en France depuis 2 ans et sur le point de faire son retour dans nos champs. C'est un symbole de l'Europe budgétaire, la règle des 3% de déficit. Le gouvernement français essaye de convaincre Bruxelles de l'abandonner une bonne fois pour toutes. À la demande des syndicats, le patronat ouvre la porte à des négociations sur le télétravail, mais le MEDEF pose ses conditions, il n'y aura pas d'accord contraignant. Et puis Bernard Laporte, le patron du rugby français, en garde à vue depuis ce matin, on va vous expliquer pourquoi. Le temps de demain, retour de la pluie sur la moitié nord, retour du soleil sur la moitié sud, nous dira Anissa Haddadi. La Bourse de Paris, elle clôture en baisse ce soir, moins 0,4% à 4772 points. Elle est détaillée à venir avec Didier Hamot de boursier.com. L'interview écho dans 20 minutes. La SNCF s'attaque au marché espagnol. Emmanuel Duteil reçoit ce soir Alain Krakovic, directeur général de voyage SNCF. Enfin, on découvrira ensemble les unes de vos journaux de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Je vous en parle chaque soir dans ce journal. La crainte d'une deuxième vague se renforce chaque jour de plus en plus. Les chiffres le montrent. 10 000 nouveaux cas ont été détectés ces dernières 24 heures. 68 décès supplémentaires. Il s'agit du plus mauvais bilan quotidien depuis le 3 juin dernier. Pour endiguer cette propagation, la lutte s'organise sur deux fronts. D'un côté, les mesures restrictives, port du masque obligatoire, interdiction de rassemblement massif, comme l'a annoncé hier le département du Rhône et le Gard aujourd'hui. Et puis de l'autre, il y a les tests, files d'attente interminables. Résultat sous plusieurs jours, une galère qui pourrait bientôt appartenir au passé grâce aux tests salivaires. À Montpellier, la société EasyCoff travaille depuis plusieurs mois avec le CHU pour mettre au point ces tests plus rapides, fiables selon les médecins et surtout beaucoup plus pratiques, Benjamin Péter.
Oui, on récupère un peu de salive avec une pipette sous la langue. Le prélèvement est chauffé 2 fois dans une petite valise. On lui ajoute un révélateur de couleur. Jaune, c'est positif. Orange, négatif. En moins d'une heure, vous êtes fixé. L'idée pour Franck Molina, qui pilote le projet au CNRS, c'est d'être complémentaire des tests PCR classiques.
Ces résultats n'ont pas besoin d'être faits en congestionnant les laboratoires d'analyse. Ils peuvent aussi être réalisés sur le terrain, à l'entrée des EHPAD, au sein des entreprises. Nous pensons qu'en termes d'efficacité aujourd'hui, il faut multiplier les points de test plutôt que augmenter le flux sur un très petit nombre de points de test.
Alors vendredi, la Haute Autorité de Santé recommandait les tests salivaires, mais seulement pour les patients symptomatiques, incompréhensible pour le professeur Jacques Rennes, qui réalise l'évaluation de ces tests grandeur nature au drive du CHU.
On est assez surpris, nous n'avons pas ces résultats actuellement. La salive est peut-être un peu moins sensible que la localisation rhino-pharyngée, mais l'élément essentiel, c'est de repérer les personnes qui ont une quantité importante de virus dans la salive, puisque ce sont elles qui sont l'origine de contamination.
Ils ont donc prévu de publier des résultats intermédiaires de leur étude d'ici la fin de la semaine pour convaincre le gouvernement et la Haute Autorité de Santé de la fiabilité de leur procédé.
Benjamin Péter, à l'étranger, Londres serre la vis, pubs, bars et restaurants devront désormais fermer à 22h. Le télétravail est encouragé partout où cela est possible. Le Royaume-Uni est le pays européen où le virus a fait le plus de morts, 42 000 victimes. Aux États-Unis, cette fois, où la barre des 200 000 morts vient d'être franchie, Donald Trump a une nouvelle fois cibler la Chine. Dans un message vidéo diffusé à l'occasion de l'Assemblée générale de l'ONU, le président américain a appelé les Nations unies à tenir la Chine pour responsable de ses actes. Trump a rappelé qu'au début de la propagation du virus, Pékin a interdit les vols intérieurs tout en maintenant les liaisons internationales. Le monde ne doit pas être dominé par la rivalité USA-Chine, a déclaré pour sa part Emmanuel Macron. L'Élysée qui annonce ce soir une petite révolution pour les futurs papas. Le congé paternité va doubler est passé à 28 jours. Il est aujourd'hui de 11 jours plus 3 de congé de naissance. Le chef de l'État qui va l'annoncer officiellement demain dans un centre de protection maternelle et infantile dans l'Essonne s'est en fait inspiré des travaux de la commission des 1000 premiers jours, Victor Delande.
Oui, la commission des 1000 premiers jours préconisait 9 semaines, ce sera finalement 4. Actuellement, le congé paternité est de 14 jours. Il va donc passer à 28 jours et ce n'est pas tout. Une partie de ce congé sera désormais obligatoire car ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, un père sur trois ne prend pas son congé juste après la naissance, notamment les personnes en contrat précaire qui ont peur d'être mal vues par leur employeur. Le gouvernement précisera dans les mois qui viennent le nombre de jours à prendre obligatoirement. Cette réforme sera inscrite dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale voté en fin d'année. Mais les premiers papas profiteront de cette mesure qu'à partir du 1er juillet 2021. Sachez enfin que cet allongement du congé paternité a un coût pour l'État, 500 millions d'euros de plus par an.
Victor Dolande, néonicotinoïde, un insecticide au nom barbare, aux effets tout aussi barbares sur les abeilles. 30% des colonies disparaissent chaque année. Voilà pourquoi la France a interdit l'utilisation de cette molécule en 2018. C'était sans compter un puceron venu tout remettre en cause. Il s'attaque aux betteraves à tel point que la filière est en danger selon les professionnels. Le gouvernement a donc décidé de leur venir en aide. Un projet de loi permettant à nouveau l'utilisation de cet insecticide est actuellement en cours de discussion en commission parlementaire. La filière betteravière a conscience que le sujet est très sensible. Elle a donc présenté aujourd'hui un plan pour tenter de rassurer tout le monde, Virginie Salmen.
Oui, les planteurs de betteraves veulent donner des gages à l'opinion publique et aux députés. À deux semaines de l'examen du projet de loi qui devrait leur accorder une dérogation temporaire d'utiliser ces graines enrobées d'insecticides. Alors dans ce plan, il y a un engagement à réduire de 25% l'utilisation des néonicotinoïdes. Concrètement, ça veut dire ne planter qu'une graine sur quatre contenant du produit et le reste sans insecticides. Parallèlement, l'INRA va accélérer la recherche d'alternatives avec 7 millions d'euros de subventions publiques. Alors il n'est pas question de remplacer un produit chimique par un autre, mais de mettre en place un cocktail de solutions selon les chercheurs. Par exemple, laisser pousser des herbes en bordure de champ pour attirer une micro-guêpe qui va s'attaquer au puceron responsable de la jaunisse de la betterave. Elle pond un petit ver qui va manger le puceron de l'intérieur ou encore semer des variétés de betterave à sucre plus résistantes sans avoir recours aux OGM.
Alors on compte de nombreux opposants à l'utilisation des néonicotinoïdes. Virginie, que disent-ils ce soir ?
Alors parmi les apiculteurs ou les ONG de défense de l'environnement, personne ne croit à ce geste de bonne volonté. Et puis, pour eux, l'enjeu de préservation des abeilles est essentiel. Ça fait 25 ans qu'ils se battent pour leur interdiction. Et là, ils ont l'impression que la filière betteravière, avec ce contre-feu, est en train de gagner la bataille de l'opinion. Pour l'un des principaux opposants, la Confédération paysanne, c'est comme revenir en arrière sur les hormones de croissance dans l'élevage. Écoutez son porte-parole, Nicolas Giraud.
On pourrait imaginer, en filière d'élevage, on subit des sécheresses à répétition depuis plusieurs années. Les éleveurs ont du mal à avoir un revenu, ont du mal à donner à manger leurs animaux, à les engraisser. On pourrait très bien demander, dans ce contexte-là, un retour aux hormones de croissance, par exemple, en se disant que c'est la béquille sur laquelle les éleveurs pourraient s'appuyer pour continuer à produire autant et à se rémunérer. Et bien là, sur la betterave, on est un peu dans le même contexte.
Avec pour l'abeille des conséquences en chaîne pour la biodiversité.
Explication signée Virginie Salmen du service Société d'Europe 1.
Europe 1, le 22-22-30.
La question était autrefois murmurée au sein des ministères, elle est aujourd'hui clairement posée. Et si l'Europe abandonnait définitivement la règle des 3% de déficit ? Elle est pour l'heure suspendue en raison de la crise, mais qu'en sera-t-il une fois la croissance revenue ? Emmanuel Dutheil, on touche là à un symbole de l'Europe, à une ligne rouge que notre gouvernement aimerait bien effacer une bonne fois pour toutes.
Oui, et je peux vous dire que côté français, ils sont unanimes. Ça ne sert à rien de promettre ce que l'on ne pourra pas tenir. En effet, dans les scénarios les plus optimistes, où on a de la croissance et où l'on n'augmente pas du tout la dépense publique dans les années à venir, eh bien le retour sous les 3% n'est pas atteignable avant au mieux 2025, selon un ministre de Bercy. Le même ministre qui avoue que ce scénario va être difficile à tenir, donc en clair, impossible de fixer une date réaliste pour un retour sous les 3%. Et c'est bien pour cela que Paris milite pour la mise en place de nouvelles règles, surtout que la France estime que la transition écologique, que la transition numérique vont demander des milliards d'euros d'investissement. Mais cet état d'esprit n'est pas partagé par tout le monde à Bruxelles. Le laxisme français avec ses règles depuis des années irrite les membres les plus sérieux. Quant à la Commission, elle n'a pas encore fixé de date pour un éventuel retour de ces règles. D'où, et c'est pas hasard, la pression en ce moment même mise par Paris.
Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1. Il a été l'un des grands gagnants du confinement. Le télétravail fait désormais partie du quotidien de millions de Français. Il y a ceux qui adorent, il y a ceux qui détestent. Et puis, il y a ces entreprises qui se demandent comment organiser tout cela. Eh bien, on a appris aujourd'hui qu'une négociation va bel et bien s'ouvrir. Premier rendez-vous le 3 novembre. Olivier Samin, le patronat qui était très réservé à ce sujet, a finalement ouvert la porte aux syndicats.
Oui, c'est la nouveauté du jour. Il y aura bien une négociation sur le télétravail. Non pas, précise aussitôt le patronat, pour aboutir à un texte qui ajouterait des règles à ce qui existe déjà, mais pour permettre une mise en œuvre réussie du télétravail dans les entreprises. On voit tout de suite la nuance. Les syndicats qui réclamaient la négociation d'un accord en bonne et due forme avec l'instauration d'un cadre nouveau applicable à toutes les entreprises, les syndicats restent un peu sur leur faim, mais acceptent malgré tout de prendre part à cette négociation. Tous les syndicats, sauf un, qui réserve encore sa réponse, la CFTC. Et dans cette négociation, il sera notamment question des sujets qui sont apparus au grand jour avec le télétravail de masse imposé à 5 millions de salariés par le confinement. Le télétravail comme réponse à des circonstances exceptionnelles, par exemple, voire à des cas de force majeure. L'articulation du télétravail avec la vie de famille, sujet ô combien sensible pendant le confinement. Les changements nécessaires en matière de pratiques managériales, les enjeux territoriaux aussi, et l'usage des tiers-lieux qui ne sont ni le domicile ni le bureau. Autant de thématiques sur lesquelles tout reste à écrire.
Olivier Samin, un douanier percuté par une voiture lors d'un contrôle dans la Drôme. L'agent a été transporté à l'hôpital de Valence en état d'urgence absolue. Selon le Dauphiné Libéré, le véhicule qui a pris la fuite a pu être intercepté. Ses deux occupants ont été placés en garde à vue. Garde à vue également pour l'état-major du rugby français. Bernard Laporte, le patron de la fédération, ainsi que ses proches collaborateurs et l'homme d'affaires Moed Altrad, sont entendus par le parquet national financier depuis ce matin. L'enquête tourne autour des relations amicales et des relations d'affaires entre Laporte et Altrad. On va revenir sur ce dossier avec vous, Julien Froment. On est à 11 jours de l'élection pour la présidence de la FFR. Et ce soir, Bernard Laporte contre-attaque. Alors qu'il est en garde à vue, ses équipes ont envoyé un email à tous les clubs amateurs de France.
Effectivement, une lettre dans laquelle Bernard Laporte dénonce, je cite, une campagne coordonnée nauséabonde. Il ajoute, cette convocation va être savamment orchestrée pour faire un mauvais buzz dans les médias. Alors, si le président du rugby français est en garde à vue, c'est parce que le parquet national financier enquête depuis 3 ans sur ses relations étroites avec l'homme d'affaires Moed Altrad. Rappel des faits, 2017, le club de Montpellier, propriété d'Altrad, voit du jour au lendemain la réduction de ses sanctions disciplinaires. Bernard Laporte aurait fait pression auprès de la commission d'appel. En parallèle, le JDD révèle à la même époque, la signature d'un contrat entre la société de Bernard Laporte et celle de Moed Altrad à hauteur de 150 000 euros. Sous pression, le président de la FFR y renonce finalement. Enfin, le groupe Altrad devient un an plus tard, en 2018, sponsor maillot du 15 de France et soutient la candidature pour l'organisation de la Coupe du Monde 2023. Le parquet national financier enquête donc sur un potentiel trafic d'influence et favoritisme. Cette garde à vue ne débouchera pas forcément sur l'ouverture d'une information judiciaire. Mais Bernard Laporte s'en serait bien passé à 10 jours des élections.
Julien Froment, autre dirigeant sportif dans le collimateur de la justice, Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG et du groupe Bein. Le parquet suisse a requis aujourd'hui 28 mois de prison contre lui dans le cadre d'une affaire d'attribution de droits télé. 3 ans de prison ont également été requis contre l'ex numéro 2 de la FIFA, Jérôme Valk. Toujours en foot, mais sur le terrain cette fois, Eugénie Le Sommer est devenue ce soir la meilleure buteuse de l'histoire des Bleus avec 82 réalisation. L'attaquante lyonnaise a inscrit 2 buts face à la Macédoine du Nord. Elle efface le précédent record détenu par Marinette Pichon. La météo de demain, Anissa Haddadi, le temps va redevenir calme dans le sud.
Oui, calme et sec, hein, Julien, avec du Pays Basque à la Côte d'Azur, un ciel dégagé et ensoleillé dès le début de la journée. Sur les Bouches-du-Rhône, attention aux entrées maritimes, il y aura des nuages bas demain en début de journée, mais qui vont très vite se dissiper sur le reste du pays. La journée commence avec pas mal de nuages et en Bretagne, en Normandie, c'est une perturbation qui arrive avec de la pluie. Dans l'après-midi, la perturbation avance, il pleut sur les Hauts-de-France, sur la Normandie, sur le centre-Val de Loire et le bassin parisien. On va vraiment changer de temps. Hein. Et puis de la Lorraine à l'Occitanie en passant par l'Auvergne, là le temps est sec et ensoleillé. En Corse, les orages du matin vont se calmer dans l'après-midi. Les températures, elles restent assez stationnaires demain avec 10 à 18 degrés de Aurillac à Nice. Et puis dans l'après-midi, il fait plus frais sur le quart nord-ouest avec 17 à Brest, 19 à Vannes et 21 au Mans. Et puis nous aurons 22 à 28 degrés sur l'ensemble du pays. 23 à Paris, Lille et Clermont-Ferrand, 25 à Biarritz et Lyon, 28 pour la maximale à Carcassonne.
Merci Anissa Haddadi.
Europe 1.
Je vous invite à rester avec nous parce que dans un instant, il y aura toutes les infos de la bourse Top à Wall Street avec Didier Hamot de Boursier.com, suivi de l'interview Echo. Emmanuel Duteil reçoit ce soir Alain Krakowicz, directeur général de Voyage SNCF, la compagnie ferroviaire, qui a annoncé aujourd'hui l'ouverture de lignes TGV en Espagne. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
22h17 sur Europe 1, l'heure de Top à Wall Street. Toutes les infos de la bourse avec vous, Didier Hamo de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Julien.
Wall Street tente un rebond malgré le contexte sanitaire toujours dégradé.
Après sa chute d'hier, le rebond prend forme quand même, avec les valeurs de technologie en particulier qui remontent. Le Nasdaq grimpe d'1,71%. 10 964 points, c'est moins spectaculaire sur le Dow Jones, plus 0,51%. 27 287 points. Jerome Powell, le patron de la Réserve fédérale américaine, s'est montré prudemment optimiste ce soir face au Congrès et toujours ouvert à de nouveaux soutiens monétaires, tout en restant très attentif évidemment à l'évolution de la situation sanitaire. On a quand même un gros rebond sur les valeurs de technologie, donc avec Amazon en particulier, plus 5,7%. Des rebonds de l'ordre de 2,7% sur Facebook, Microsoft plus 2,4%, Apple plus 1,7% et Netflix plus 0,8%. Il y a une exception, c'est Tesla qui redescend de 5,5%. En attendant les annonces du groupe sur les nouvelles avancées technologiques concernant en particulier les batteries longue durée.
C'est en ce moment, je crois.
Effectivement, on en saura plus dans quelques minutes. Alors c'est vrai que Elon Musk a un petit peu calmé tout le monde hier soir en disant que ça allait rester tendu de toute façon jusqu'à 2022 pour cette histoire de batterie qui devrait quand même être plus puissante. C'est en tous les cas ce qu'on attend tout à l'heure. Sur le pétrole, c'est moins spectaculaire aussi. On a une hausse d'1%, une petite hausse, $39,75 sur le baril WTI après la baisse du pétrole de ces dernières séances. Et puis l'euro revient sur les 1,17 face au dollar.
La bourse de Paris a encore perdu du terrain après sa grosse chute d'hier.
Oui, la bourse a raté son rebond, encore en baisse finalement de 0,4%, 4 773 points sur le CAC 40, malgré donc une tentative de sursaut en matinée. Ce sera sans doute mieux demain avec cette clôture en hausse de Wall Street ce soir. Il y a toujours les mêmes valeurs qui plombent la cote, les valeurs de transport, les valeurs de tourisme. On a Air France, moins 4% de nouveau, Airbus, moins 2,7%, le groupe hôtelier Accor, moins 2,5%. Et puis le secteur pétrolier, encore dans le rouge. On a CGG, moins 3% et Vallourec, moins 2% ce soir.
Exception du jour, AST Group a fortement progressé.
Oui, le constructeur de maisons AST Group grimpe, s'envole de pratiquement 12% après des résultats semestriels très résistants, marqués par un bénéfice opérationnel en hausse, forte hausse de 36% à 2 millions d'euros, ce qui porte la marge à 2,5%. Et du coup, donc en bourse, le titre AST Group flambe de 11,7% exactement à la clôture. On est à 3,62€ ce soir. Sur les autres places financières, c'est partagé avec de petits rebonds à Francfort, plus 0,4%, à Milan, plus 0,5%. En revanche, Bruxelles a perdu 0,4%, Madrid, moins 0,6%. Et donc le CAC 40 en baisse, lui aussi, de 0,4%. 4 773 points.
Merci Didier Hamo de boursier.com et à demain.
À demain.
22h20 sur Europe 1, on passe à l'interview éco. Emmanuel Duteil, vous recevez ce soir Alain Krakowicz.
Bonsoir Alain Krakowicz.
Bonsoir.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le directeur général de Voyage SNCF et vous êtes en ligne avec nous depuis Madrid. Pourquoi l'Espagne ? Eh bien parce que la SNCF a annoncé aujourd'hui le lancement d'un TGV low cost en Espagne pour faire Madrid-Barcelone à compter du 15 mars 2021. Ce sera un train Ouigo, donc vous arrivez sur le marché espagnol avec une offre qui va casser tous les prix. On peut le présenter comme ça ?
Oui, on a prévu que la moyenne de nos prix serait 50% plus basse que les prix actuels en Espagne. Donc oui, l'objectif, c'est vraiment une grande vitesse populaire, accessible à tous, mais aussi avec une grande qualité de service.
Et vous allez donc baisser fortement les prix, en plus avec une offre de démarrage avec des billets, je crois même, à 1 euro ?
Oui, là, on fait une offre de démarrage avec 10 000 billets à 1 euro. Ça c'est je pense un signe fort qu'on veut donner. Les gens pourront s'inscrire dès cette semaine et quand les ventes ouvriront en novembre, ils pourront avoir leur billet à 1 euro.
Quand je disais que vous arrivez avec le modèle Ouigo, est-ce que ce seront les mêmes trains que ceux que nous connaissons nous en France ou est-ce que vous avez dû adapter au marché espagnol ces rames de TGV ?
Alors, ce ne sera pas exactement les mêmes, effectivement, parce que on doit adapter en particulier des systèmes de sécurité pour pouvoir rouler en Espagne. Ce ne sont pas complètement les mêmes qu'en France. Et puis, on a aussi adapté nos trains à la demande espagnole. Et c'est vrai que, par exemple, les Espagnols, on considère qu'il est absolument indispensable d'avoir un bar dans le train. Donc, on n'aura pas complètement les mêmes rames qu'en France.
Quelle ambition sur ce marché ? Vous espérez prendre quelle part du marché ?
Pour l'instant, on ne donne pas tous les chiffres de notre business plan, et ça, je pense que vous le comprenez tous. Par contre, ce qu'il faut mesurer, c'est qu'on veut effectivement commencer sur Madrid-Barcelone. Après, on ira à Valence et après à Séville. Tout ça, ça fera en tout 15 allers-retours par jour, et ça représente 30 000 places par jour. Donc, c'est très, très ambitieux. Je vous laisse faire les calculs, puisque notre ambition, c'est évidemment de remplir le plus possible nos trains. Donc ça vous donne une idée de notre ambition.
Alors, vous avez une ambition en Espagne, parce qu'on ne le sait pas toujours, hein, mais l'Espagne, si je ne dis pas de bêtises, est l'un des pays au monde qui a le plus gros réseau de lignes à grande vitesse. Je crois même qu'on dit que c'est le deuxième pays derrière la Chine. C'est vrai, ça?
Exactement. C'est, l'Espagne a un superbe réseau à grande vitesse. En longueur de voie, c'est le deuxième derrière la Chine. Et donc, c'était pour nous une évidence de profiter de cette ouverture du marché. La DIF, hein, c'est l'administrateur de l'infrastructure espagnole, a mis en appel d'offres une augmentation de 60% de la capacité en fait, ferroviaire. Donc, c'est considérable. Et donc, ça nous a semblé normal de venir sur ce marché avec une offre qui est très, très différente de celle qu'il y a aujourd'hui.
Alain Krakowicz, je rappelle que vous êtes le directeur général de Voyage SNCF. Ça va vous entraîner à affronter la concurrence qui va bientôt être également en place en France?
Oui, exactement. On considère que la meilleure défense, c'est l'attaque. Et pour nous, le fait de venir en Espagne, ça va nous entraîner, effectivement. Et puis, c'est important parce qu'on sait aussi Renfe, l'opérateur espagnol, a l'intention de venir en France. On entend qu'en 2022, ils opéreront des trains entre Marseille et Lyon, ou entre Montpellier et Lyon, c'est à voir. Mais je pense que c'est important aussi que nous, dans ce cadre-là, on soit en Espagne.
Vous vous sentez du coup, vous, prêt à ce que des concurrents comme ça arrivent sur le marché français? Parce que là, très clairement, vous attaquez très fort sur le prix, vous venez avec votre modèle low cost, mais en France, c'est certes très important, les Ouigo, mais c'est encore une toute petite partie du marché de la grande vitesse.
C'est quand même une partie importante, puisque c'est 25% du marché de la grande vitesse. Aujourd'hui, Ouigo, donc des tout petits prix en France aussi, et ça représente 25% de l'ensemble de l'offre qu'on a en grande vitesse. Et puis, on a aussi d'ailleurs des petits prix sur TGV Inouï. On l'a vu très dernièrement dans la situation qu'on a connue avec le Covid pour réattirer nos clients dans les trains. On est prêt. Je pense qu'effectivement, on est prêt. En tout cas, on se prépare. On est en particulier très attentif aux services et aux prix qu'on pourra proposer à nos clients, en particulier sur Paris-Lyon, puisqu'on sait que c'est probablement la première ligne sur laquelle on aura des concurrents.
Est-ce que les clients sont enfin en train de revenir chez vous? Les derniers chiffres que vous avez communiqués, vous êtes notamment sur les gros week-ends autour de 65-70% de remplissage par rapport à l'année dernière. On est loin encore de la période d'avant-crise.
Oui, en fait, l'été a été meilleur que prévu. On a eu finalement des très beaux week-ends cet été. Enfin, c'était une bonne nouvelle. Septembre et octobre sont pour l'instant difficiles, en particulier chez les pros. Et donc, en semaine, vous l'avez dit, en week-end, plutôt, on constate que les clients loisirs reviennent dans les trains. Ça reste difficile en semaine.
Juste dernière question. Nous avions le patron d'Alstom à la mi-journée sur Europe 1, Henri Poupart-Lafarge. Il nous a dit « Je suis confiant sur le fait que la SNCF signe notre commande de train à hydrogène. Ça aurait dû déjà être fait. Ça aurait dû entrer en vigueur en 2021-2022. » Il nous a dit « On aura sûrement un an de retard, mais on est confiant. » Vous êtes confiant, vous aussi, vous allez les acheter?
Alors, ce n'est pas un sujet grande vitesse, mais c'est un sujet important pour la SNCF. Effectivement, on est très volontaire sur l'idée de l'hydrogène et la capacité à pouvoir faire circuler des trains qui sont très, très économes en production de CO2, en particulier, donc évidemment, sur des lignes non électrifiées. C'est une démarche très intéressante. Plutôt que de construire des lignes électrifiées dans des endroits où ça coûtera extrêmement cher, de pouvoir faire circuler des trains à hydrogène qui sont sans production de CO2, c'est très intéressant.
Donc, vous aurez sûrement ces trains avec un petit peu de retard. C'est ça que vous nous dites, même si ce n'est pas totalement dans votre périmètre?
Oui, moi, j'ai pas l'idée des plannings, mais en tout cas, c'est une volonté très, très forte de la SNCF d'aller sur l'hydrogène.
Eh bien, merci beaucoup, Alain Krakowicz, le directeur général de Voyage SNCF, d'avoir été en ligne avec nous depuis Madrid, où la SNCF lance donc un TGV low cost à partir du 15 mars 2021. À demain, 22h20.
Merci beaucoup, Emmanuel Dutheil. Interview à retrouver sur notre site europe1.fr. Restez avec nous dans un instant. On va découvrir ensemble les unes de la presse de demain. À tout de suite. 22h29 sur Europe 1 et voici donc ce que vous pourrez lire demain à la une de vos journaux. Droit d'asile, l'Europe s'enfonce dans la honte. Titre Libération. Présenté demain, le nouveau pacte européen sur l'immigration aurait pu assouplir la politique très restrictive de l'Union européenne. À la place, écrit Libé, il confirme la transformation du continent en forteresse. L'Opinion se penche sur le dossier des néonicotinoïdes dont on vous parlait dans le journal. Pompili, une maille à l'endroit, une à l'envers, titre Le Quotidien. Coincé entre une opinion de plus en plus verte et la ligne écolo-réaliste de l'Elysée, Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique, est attaquée par les associations Vent Debout depuis l'annonce du retour de cet insecticide dans les champs français. L'Opinion pointe les apparentes contradictions de la ministre. Elle prône la sobriété numérique, mais défend la 5G. Elle s'engage contre l'usage des pesticides de synthèse, mais justifie le retour des néonicotinoïdes. Une politique très en même temps, qui devrait lui offrir une place de choix en Macronie. Et pourtant, dans la majorité, certains se méfient de l'ancienne membre d'Europe Écologie Les Verts, écrit l'Opinion. Covid-19, des signes encourageants à Bordeaux et Marseille, titre pour sa part Le Figaro. Depuis quelques jours, les courbes de nouveaux cas dans les Bouches-du-Rhône et en Gironde, mais aussi en Haute-Garonne et dans les Alpes-Maritimes, commencent à se stabiliser. Une évolution positive que les experts scrutent avec prudence, ne sachant pas si cette tendance va se poursuivre, ni si elle est due aux mesures plus contraignantes prises dans ces départements. Ce sera donc à lire demain dans Le Figaro. Bonsoir Olivier Delacroix.
Bonsoir Julien, comment allez-vous ?
Je vais très bien.
Bon, alors on est prêt pour entamer cette soirée ensemble. On se retrouve tout à l'heure pour le flash à 23h.
Et 3921 pour vous appeler pour venir témoigner dans votre libre antenne.
Exactement.
À tout à l'heure.